Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
La maladie psychique, parlons-en. Dans un récent dossier, le magazine Ombre et Lumière a mené une enquête sur la maladie psychique en allant recueillir la parole de jeunes concernés et en interrogeant des professionnels. En partenariat avec l'Office chrétien des personnes handicapées, cette émission Vivante Église vient prolonger ce dossier en faisant appel à des témoins de notre région pour donner des pistes et espérer. Comment l'irruption de la maladie psychique bouleverse-t-elle la vie des familles? Nous posons la question aujourd'hui aux deux invités de Radio Présence. Danielle Jouve, bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes mariée et mère
oui,
de deux enfants.
C'est ça.
Votre fils aîné Gilles est atteint de schizophrénie. Il a aujourd'hui 55 ans.
Exactement.
Et il vit seul. À vos côtés, Dominique Dubois. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous avez 44 ans. Vous êtes atteint de troubles bipolaires depuis 20 ans. Vous vivez aujourd'hui à Toulouse en complète autonomie, tout en bénéficiant régulièrement d'un suivi psychothérapeutique.
Tout à fait.
Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce magazine Vivante Église. Dans la majorité des cas, la grande majorité des cas, la maladie psychique fait irruption entre 15 et 25 ans, période propice à de nombreux bouleversements hormonaux, relationnels, familiaux, etc. Les troubles psychiques renversent alors complètement l'équilibre instable de l'adolescent ou du jeune adulte, lit-on dans ce dossier d'Ombre et Lumière. Danielle Jouve, votre fils Gilles a eu les premiers symptômes de sa maladie à 15 ans et sa première crise à 25 ans, vous me disiez en préparant cet entretien.
Oui.
Quels ont été les signes avant-coureurs ?
Les signes avant-coureurs à partir de 15 ans peuvent ressembler beaucoup au début des signes de l'adolescence, c'est-à-dire, par exemple, pour le lycée, on fait le mur, on ramène des mauvais résultats alors qu'on est meilleur élève avant, on s'absente toute une journée sans dire où on va et on rentre très tard, on ne le sait pas, mais ce sont des signes qui ne sont pas très alarmants. Petit à petit, au fil du temps qui s'écoule, ces signes commencent à devenir très alarmants parce qu'ils commencent par exemple à dormir le jour et sortir la nuit.
Et ça, on pourrait se dire que c'est aussi
l'adolescence. Il a des copains, ils font la fête. Bon, on est tolérant, on laisse faire. Et puis, le temps passe et là, il y a des signes beaucoup plus alarmants, c'est-à-dire le changement de comportement d'un garçon qui est gentil, tranquille, sportif, et tout à coup qui devient agressif, mais une agressivité qui nous surprend. Et on essaie de discuter avec lui, mais c'est très difficile. Ça commence déjà à être difficile. Et puis on avance dans le temps, il est à l'université, bon, il réussit à avoir le bac difficilement. On arrive à l'université. Là, première année, études de droit, il est sans enthousiasme, il a d'excellentes notes, tout va bien. Deuxième année, ça se complique dans les relations avec nous, beaucoup d'agressivité. Et là, on décide de lui trouver un appartement. On estime qu'à cet âge, il peut vivre autonome. Et donc, on loue un petit logement, pas très loin. On le meuble, on l'installe. Bon, la deuxième année se passe bien. Un peu moins que la première, mais rien de très, très alarmant pour nous. Et alors ensuite, ça s'est déclenché beaucoup plus violemment, puisqu'il a triplé la licence, et on l'a laissé faire, à l'époque c'était possible. Mais quand il venait chez nous, on se percevait qu'il prenait des épingles à tête et qu'il s'est scarifié le visage, surtout le visage, il se regardait constamment dans la glace, comme s'il s'interrogeait, mais qui suis-je ? Ce regard de lui-même sur lui-même nous faisait vraiment très mal et on essayait de lui dire, mais enfin Gilles, pourquoi tu te regardes comme ça ? Je suis pas beau, ça va pas, mais si, tu es beau, tu es jeune, tous les jeunes sont beaux, tu es
vous,
très
vous
bien.
Vous le rassuriez en fait ?
Oui, tout
et
pour le rassurer, non. Rien ne le rassurait exactement. Et puis après, on a découvert l'alcool sous le lit, des alcools très forts. Et puis, en même temps de tous ces symptômes, alors oui, il nous prenait des objets, il les donnait, on ne sait pas à qui, il a cassé son vélo, enfin, plein de gestes déjà de violence, mais matérielle. Et puis en même temps, il préparait le concours pour aller chez les chasseurs alpins. Il a été sélectionné, donc pour nous, quand même. C'était un
signe. C'est un aboutissement peut-être.
Un aboutissement de tout le travail de son père sur le sport, de lui aussi avec ses amis parce qu'il était très féru de montagne, autant l'hiver que l'été. Il est donc sélectionné.
Il est parti
au 27e bataillon des chasseurs alpins à Bourg-Saint-Maurice. Très heureux, très content, puisque c'est ce qu'il voulait. Mais alors là, il a décompensé. Ça s'est très, très mal passé. Au départ, il revenait de Bourg-Saint-Maurice tous les week-ends. Et ça, on trouvait ça pas normal.
Oui, ça fait loin de Toulouse, quand
oui,
même.
Oui, c'est illogique. Et bon, moi, un jour, j'ai appelé un psychiatre avec qui je travaillais pour des personnes qui avaient des addictions. Et je lui ai fait part de mon inquiétude. Et il m'a dit, mais non. Non, non, vous êtes comme les mères, votre fils s'en va au service national, la mère hyper protectrice. Bon, d'accord, je me suis dit, c'est toi qui ne vois pas bien la chose. Et puis, donc il est parti en septembre 94 et en décembre 95, mon mari a reçu un coup de fil du médecin militaire de l'unité qui lui a dit, mais comment se fait-il que vous nous ayez envoyé votre fils? C'est un gros malade, ça va pas du tout. Et il y a eu des esclandres, c'est très grave. On l'a hospitalisé à déjeuner à Lyon.
Donc ça, c'était violent quand même comme annonce.
Hein. Information hyper violente qui nous est tombée dessus parce que, en fait, plus ou moins...
Vous vous en doutiez, mais...
En fait,
mais
c'est
voilà,
difficile de dire...
C'est difficile de réaliser.
On s'attendait bien qu'il allait arriver quelque chose, mais... C'était difficile de le percevoir. Je vous dis, il y a 30 ans de ça. Et il y a 30 ans, on ne parlait pas de la schizophrénie comme on fait aujourd'hui. Nous, dans notre métier, on savait à peu près ce que c'était, mais ce n'était pas notre domaine d'intervention prioritaire. Donc, eh bien, fin décembre, il est arrivé de déjeunette, tout seul. Il devait être hospitalisé à l'hôpital militaire Larrey, qui à ce moment-là existait à Pouvourville, mais il s'est présenté que 2 jours après, il a disparu dans la nature pendant 2 jours. Il a été à l'hôpital militaire, et là, ça a été le choc de la rencontre avec le premier traitement, parce que l'hôpital militaire n'était pas adapté à cette pathologie, et ils lui ont mis une sédation très forte. Et je revois mon fils allongé sur son lit, complètement comme un légume, disant « Maman, ils ont fait une erreur médicale, je sors moi de là. » Et alors moi, en larmes, bien sûr, prise dans les bras par une infirmière, qui me dit « Madame, surtout ne le sortez pas, faites-nous confiance. » Et c'est ce qu'on a toujours fait toute notre vie, on est parti de ça.
Merci pour ce premier témoignage. Dominique Dubois, comment la maladie psychique a fait irruption dans votre vie ?
Alors la plus grosse irruption en ce qui me concerne, ça a été en 2005, mais il y a eu quelques signes avant-coureurs. Hein.
Donc voilà. Un peu du même type que ceux pour le fils de Madame Jou.
Pas tout à fait. Comment dire. Je vais tracer les choses de manière chronologique, ça sera peut-être plus simple.
Oui.
J'ai eu une adolescence assez solitaire, on aurait pu le relier, mais bon, c'est toujours facile évidemment de le dire
après coup, a priori.
Voilà, notamment au collège, j'étais complètement solitaire, mais pas parce que mes parents, voilà, parce que c'était moi qui, voilà, je n'avais pas d'amis, c'est comme ça. Ça s'est amélioré au lycée. Et c'est ensuite, en dernière année d'école d'ingénieur, en 2003, j'ai eu une dépression. Il y a eu plusieurs conjonctions. Il y a eu la mort de ma grand-mère, le fait que je savais que normalement, j'allais être diplômé quelques mois après et que j'allais devoir affronter la vie professionnelle. Donc ça m'avait...
Et vous étiez loin de chez vous aussi?
Oui, j'étais à Lyon, oui, à l'époque, effectivement. Ça jouait, en école d'ingénieur à Lyon. Donc, eh bien, il se trouve que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir mon diplôme à ce moment-là, du coup, je ne l'ai pas eu. J'ai dû redoubler mon année d'école d'ingénieur, ce qui est assez rare. En général, on redouble avant. Mais donc, j'ai redoublé à Lille, je l'ai eu, mon diplôme. Ensuite, pendant 6 mois, j'ai été au chômage chez mes parents à Toulouse. Et ensuite, en printemps 2005, j'ai eu un premier travail à Paris. Voilà, et donc j'ai commencé pendant 15 jours. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle une crise de décompensation.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire décompensation ? Parce que nos auditeurs ne connaissent pas forcément ce terme, s'il
vous
plaît.
Oui, alors, en ce qui me concerne, alors, c'est difficile de donner, je ne suis pas médecin, donc donner une définition très très général, je vais
mais
peut-être
au moins vous concernant, comment oui. ça s'est concrètement passé?
Voilà, donc ça a été un état d'excitation absolument incommensurable et incontrôlable surtout, mais j'étais conscient, c'était assez perturbant. Donc je dormais mal depuis plusieurs jours, et puis c'était un samedi matin, ça devait être un 1er mai même. Oui, ça devait être le 1er mai 2005. Donc je suis sorti dans la rue, je descendais la butte Montmartre, j'étais à Paris donc, et quelqu'un m'a interpellé dans la rue à ce moment-là et m'a lancé quelque chose qui m'a paru insultant, mais je pense que vu l'état dans lequel j'étais, ça devait... J'ai pu le rêver, hein, donc je n'ai aucune certitude par rapport à ça.
Et ça a pu être un élément déclencheur.
Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai senti quasiment mon cerveau basculer, oui, carrément. Et je suis rentré, oui, dans ce que je lis a posteriori comme un état d'excitation extrême, à marcher énormément, mais c'était à l'image de mon cerveau qui tournait.
Vous étiez perdu, vous aviez l'impression d'être...
Alors, c'est très paradoxal, j'étais perdu, mais en fait, j'avais l'impression, au contraire, de tout comprendre.
Ah oui,
de tout
maîtriser.
Oui, complètement. Complètement, j'avais cette impression-là. C'est un état très paradoxal. Voilà, et ça je suis allé retrouver des amis, c'était prévu, hein, voilà, qui ont été assez affolés, qui ne m'ont pas laissé rentrer chez moi d'ailleurs, qui m'ont gardé pour la nuit. Les pauvres, ils n'ont pas dormi parce que moi, je dormais pas. Ouais. Et je faisais du bruit. Voilà. Après, comment dire, donc la journée du samedi et du dimanche sont passées comme ça, sans dormir.
Vous étiez toujours dans un état d'excitation.
Voilà. Donc le lundi, je devais reprendre mon travail, et puis en fait, ça n'a pas été possible. Finalement, c'était les pompiers sont venus me chercher. Je sais plus si c'est les voisins ou moi qui les ont alertés. Puis bon, là,
vous avez été hospitalisé.
Oui, voilà, et c'est daté un trou de 2-3 jours. Voilà, et là, c'est quand je me suis réveillé, quand j'ai repris conscience, j'étais donc dans le secteur fermé de l'hôpital Sainte-Anne. J'ai été très bien soigné d'ailleurs. C'est quelque chose que j'ai pas.
Vous ne l'avez pas mal vécu en tout cas.
Non. C'est quelque chose qu'on peut vivre effectivement, le fait d'être enfermé, d'être. Voilà, parce que c'est une hospitalisation sous contrainte. Hein. Ça a été paradoxalement d'ailleurs plus difficile pour mon père, parce qu'il a dû signer ce qu'on appelait à l'époque une hospitalisation, une HDT, hospitalisation à la demande d'un tiers. Et pour lui, ça avait été terrible de devoir faire ça. Pour moi, finalement, à l'époque où j'étais à Sainte-Anne, j'étais très bien suivi par une psychologue tous les jours. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Je recevais des soins, voilà. Et ensuite, au bout de 3 semaines, mes amis venaient souvent me voir, mais ça pesait beaucoup sur eux, voilà. Mes parents étaient venus aussi 2 fois, hein, de Toulouse. Donc, je suis rentré sur Toulouse. À l'époque, l'hôpital Sainte-Anne avait un partenariat avec la clinique de Beaupuis. Et donc, du coup, j'ai été hospitalisé à Beaupuis où ça a été moins bien.
D'accord. Et donc, vous avez eu une alternance de périodes d'hospitalisation et de périodes où vous pouviez rentrer finalement au domicile, notamment au domicile de vos parents au début.
Oui, au début. Alors, j'ai eu en fait uniquement deux... Oui, vous avez raison en fait. J'ai eu au total 3 hospitalisations. Donc, celle-ci en 2005, une petite réplique en 2006, l'année d'après, où là, ça a été 15 jours. Bon. Ça a été nécessaire, mais voilà. Et ensuite, j'ai été hospitalisé, mais à domicile. Enfin, comment dire, dans un hôpital de jour. Pardon, oui, excusez-moi. Ouais. Voilà, et donc là, ça a duré 4 ans.
Donc là, vous aviez entre 25 et 30 ans, à peu près.
Les deux premières hospitalisations au milieu, en hôpital classique, là, effectivement, j'avais 25-26 ans.
Ouais, c'est ça.
Et l'hospitalisation en hôpital de jour, non. Là, c'était en 2018. Donc, j'avais entre à peu près 40 ans.
D'accord. Alors, il est complexe de savoir quelle est la place de la génétique et celle des terrains qui favorisent l'apparition de troubles, prévient Véronique Léna, pédopsychiatre, interviewée dans cette même revue Ombre et Lumière. Vous concernant Dominique Dubois, est-ce qu'il y avait un terrain propice à la bipolarité dont vous souffrez aujourd'hui?
Ah oui, clairement. Enfin, même si on ne l'avait pas forcément identifié, mais comment dire, malheureusement, dans ma famille maternelle, il y avait... Hélas, oui, j'ai eu un oncle qui s'est suicidé, qui a eu
des fragilités dans votre famille.
Qui avait été diagnostiqué dépressif, mais qui en fait, il faut savoir que le diagnostic de dépression est une erreur, entre guillemets, si j'ose dire, fréquente en matière de diagnostic du trouble bipolaire, parce que souvent le trouble bipolaire, en fait, ou les troubles bipolaires, parce qu'il y en a plusieurs sortes, se manifestent par des alternances de dépression et de surexcitation qu'on appelle hypomanie ou manie, ou décompensation éventuellement. Voilà. Et si le patient commence, entre guillemets, par une phase de dépression, bien évidemment, il est diagnostiqué dépressif.
Ah oui, c'est ça.
Et voilà, ça a été le cas pour mon oncle. Du coup, il a été... Or, on ne soigne pas pareil un dépressif et un bipolaire. Notamment, on a, enfin, comment dire, un dépressif en général, c'est pas toujours, mais souvent, a besoin d'antidépresseurs. Il faut faire très attention, au contraire, quand on donne des antidépresseurs à une personne atteinte de troubles bipolaires, parce que ça peut l'envoyer dans un trouble, dans une hypomanie. Mmh. Et on suppose que ça a été un peu le cas de mon pauvre oncle, qui, bon, ben, malheureusement, c'était dans les années 80, il était soigné à l'hôpital d'Albi, qui n'était pas forcément en pointe à ce moment-là, et sur ce sujet-là, hein, c'était compliqué. Hein,
mais en vous entendant, on voit bien que c'est quand même compliqué de discerner et de poser un diagnostic. Daniel Joux, au bout de combien de temps le diagnostic sur la maladie de votre fils a-t-il pu être posé ?
Alors, avant de vous répondre directement, je voudrais dire à Dominique que tous les mots qu'il a employés font écho, par exemple... l'HDT et l'hôpital de jour, puisque nous avons suivi ce même parcours.
HDT, vous pouvez...
Hospitalisation à la demande d'un tiers. D'accord. Il y a trois façons d'être hospitalisé: à la demande personnelle, sur la demande d'un tiers et par la mairie, hospitalisation d'office. Voilà.
Le diagnostic, au bout de combien de temps a-t-il pu être posé?
Notre fils a été hospitalisé à l'hôpital Marchand en sortant directement très vite de l'hôpital militaire. Et là, il a été pris en charge dans une unité qui s'est avérée formidable et que je remercie de tout mon cœur. Et là, ça a mis, dans mon souvenir, à peu près un an. Le médecin nous recevait, nous allions voir notre fils tous les soirs. Et le médecin, nous la voyions assez régulièrement. Et à un moment donné, mais dans l'espace, j'ai du mal à me repérer. Mais à un moment donné, elle nous a... Non, c'est plus tard. Alors, mettons, cette première année-là, où nous allions le voir tous les soirs, il est resté à peu près un an à l'hôpital. D'abord, il nous reconnaissait très peu au début. C'était très difficile. Ils ont commencé... Donc, l'équipe a commencé à mettre des médicaments. Et moi, j'ai suivi cette façon de faire pour les médicaments par rapport à la sortie, pour comprendre comment j'allais aider notre fils. Donc, pendant un an, ce médecin, madame le docteur Amoyal, elle a mis du temps pour donner le diagnostic. Elle nous a expliqué pourquoi, elle nous a donné sa façon de faire, que je ne saurais pas vous redire, mais ça nous a énormément rassurés. Parce qu'on savait que Gilles était en très bonne main. Et donc, au bout d'un an, elle nous a dit, le diagnostic, je le fais, je pense qu'il a une schizophrénie paranoïaque. Ça a été un gros choc, parce qu'à ce moment-là, ce mot-là avait des images terribles, et nous, ces images, on les avait d'une manière stéréotypée, stigmatisées totalement, et on s'est dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que notre fils... Et cette maladie...
Un mot qui fait peur.
Un mot qui fait très peur, et surtout les conséquences. Alors là, même à ce moment-là, même avec notre peur, on n'imaginait pas ce qui nous attendait par la suite. Mais le diagnostic, c'est rassurant, parce qu'on donne un nom au comportement. Parce que pendant un an, on est perdu. On a notre fils dans son lit avec ses gros bouquins de droit qui voulait passer le concours de commissaire de police, n'importe quoi. Mais nous... À la fois, on me disait « c'est n'importe quoi » et à la fois, on disait « mais peut-être qu'on se trompe ». Mais quand le diagnostic a été posé, pas question de rêver d'autre chose que de soins. Voilà.
Je vous propose de marquer déjà une première pause. Nous allons écouter « Montagne russe » interprétée par Rebecca Soul.
J'ai dû me préparer afin de te l'annoncer. C'est comme un coming out pour t'exposer mon burn-out. Je fais pas de la comédie, j'ai une vraie maladie. C'est très loin de me plaire, mais je suis bipolaire. Oui, je suis bipolaire. Oh, oh, oh. Ma vie c'est souvent noir ou blanc. Les tons de gris sont très rarement présents. C'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi je n'ai pas votre chance. Non, je n'ai pas votre chance. Oh. montagnes russes sans issue, humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt. Tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste avec moi. Ce n'est pas imaginaire, ça me vient de ma mère. Je ne l'ai pas choisi, je bats une tueuse en série. Et pendant un bout de temps, je tombe dans le néant. Mon refuge et mon lit, je pleure, je n'aime plus la vie. Oui, je suis bipolaire. C'est un laçon noir et sans espoir. Le bon en moi, je n'arrive plus à le voir. Je pense au ralenti, je suis endormie. Je me concentre plus et je perds l'appétit. Oui, et je perds l'appétit. Montagne russe sans issue. Humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt. Tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste avec moi. Ensuite c'est la manie, confiance et énergie. Je parle beaucoup trop vite, trop de projets sans limite. Je ne me contrôle plus, je peux dire des choses crues. M'emporter, tout casser ou bien trop dépenser. Oui, je suis bipolaire. Soudain je deviens hyperactif, mes aventures amoureuses s'activent. Mon charme et ma créativité m'apportent aussi irritabilité. Mon irritabilité. Oh, montagne russe sans issue, humeur qui donne mal au cœur, mon bonheur qui se meurt. Tu sais que j'ai besoin de toi, s'il te plaît, reste avec moi.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans cette émission Vivante Église consacrée à l'irruption de la maladie psychique. Les invités de Radio Présence sont Daniel Jouve, maire de Gilles, atteint de schizophrénie, et Dominique Dubois, atteint de bipolarité. Pour terminer sur les parcours respectifs de votre fils Gilles et puis de vous Dominique, après ces périodes d'hospitalisation, il y a toute la période d'un entre guillemets retour à la vie normale ou d'une normalisation du quotidien. Comment ça s'est passé et comment vous l'avez vécu aussi en lien avec votre famille, Dominique?
Eh bien, ça a été un peu long et ça, comment dire, en ce qui me concerne, il y a eu une, comment dire, moi je m'imaginais reprendre un travail d'ingénieur, bon, ça n'a pas été possible.
Donc ça a été une période de deuil à faire pour vous?
Un petit peu, oui, on peut le dire, oui, on peut dire qu'il y a une forme de deuil, effectivement. Et voilà. Après, j'ai été beaucoup soutenu par mes parents, par des amis, par certains soignants, oui, par les soignants, effectivement. Et bon, je n'ai pas pu faire ce que je pensais faire, mais j'ai fait d'autres choses. Je fais toujours d'autres choses.
Par exemple.
Là, actuellement, je suis bénévole dans une ludothèque. Ça me procure beaucoup de joie. Comme j'avais du temps, je me suis beaucoup occupé des deux filles de mes deux nièces, des deux filles de ma sœur. Là, je m'occupe un peu plus des deux petits-enfants de mon frère. Donc, c'est aussi beaucoup de joie.
Et donc, vous avez votre place dans la famille, vous avez votre rôle.
Oui, en quelque sorte, oui. Le rôle d'oncle, oui, qui est assez...
Qui est précieux dans
qui
une
est
famille.
Précieux, qui est... Quelque part, je dis en riant qu'on a les avantages et pas les inconvénients. Mais c'est... Mais c'est un petit peu, peut-être un peu dur pour les parents, mais...
Et puis, vous avez une activité musicale quand même qui...
Ah oui, je, bien sûr.
Qui vous apporte beaucoup.
Oui, c'est vrai, oui, j'ai oublié, ça fait très longtemps que je suis dans trois chorales. Je suis un peu un boulimique de la musique chorale. Et c'est une des deux jambes qui m'a beaucoup soutenu. Il y a eu la chorale, la randonnée, même si actuellement, là, cette jambe-là est... plutôt en panne en ce moment, mais ça reprendra. Oui, la musique vraiment est toujours... j'ai chanté depuis l'âge de... En chorale, depuis l'âge de 5 ans, juste comme ça.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que votre vie est stabilisée, malgré la maladie?
On peut dire, oui. On peut dire qu'il y a une forme de stabilisation, même si je garde des humeurs relativement instables, malheureusement, ça c'est comme ça, mais je pense avoir admis que ça serait quelque chose à vie et que ça sera comme ça. Et que il faut faire avec, que c'est pas toujours facile tous les jours, bien sûr, hein, et qu'il y a des... voilà. Après, mes variations se manifestent pas mal, malheureusement, par des variations d'énergie, de manque d'entrain.
Des périodes assez dynamiques et d'autres périodes plus calmes.
Oui, voilà. Mais les variations peuvent être assez brutales d'un jour sur l'autre. Ça peut être... et ça, bon, c'est comme ça. Et puis, il peut arriver que je passe deux ou trois jours à ne pas faire grand-chose. Et puis, bon, je serre les dents et je sais qu'après, ça reprend. Bon, c'est comme ça.
Et au niveau du suivi médical dont vous disposez, quel est-il?
Alors, à l'heure actuelle, je suis donc suivi par un psychiatre de ville qui est... donc je vois en général une fois par semaine, parfois moins, ça dépend. Il se trouve que j'ai pu... il se trouve que l'été dernier, j'ai pu faire un très beau projet là de... Je suis parti presque 4 mois en voyage, et donc là, j'ai pas vu mon psychiatre pendant 4 mois. J'avais son numéro, je pouvais le contacter, mais il se trouve que j'en ai pas...
Vous n'en avez pas éprouvé le besoin.
Pas éprouvé le besoin, et j'ai pas, effectivement, et ça... Voilà, ça a été un peu aussi en lien avec mon hospitalisation de jour, là, à l'hôpital Route Nouvelle, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a entre guillemets, me permet de me dire, oui, tu peux le faire, ça. Tu as envie de mener ce projet, tu as le temps, fais-le. Tu peux le... Voilà, ça... J'avoue que ça m'a bien porté.
Ça vous a porté. Ah oui. Daniel Jouve, dans cet accompagnement de votre fils Gilles, après toutes ces crises et ces hospitalisations à répétition, de quel soutien avez-vous bénéficié?
Alors, il faut dire que ça fait déjà 30 ans que nous vivons cette situation. Au départ, nous avons eu aucun soutien de la famille. Ils ne pouvaient pas. C'était inaccessible d'écouter notre souffrance. Donc, on se rend compte plus tard que peut-être on leur demandait trop. Et c'est compliqué à expliquer, mais je regrette un peu ce que je leur ai fait vivre parce que ça a provoqué des ruptures difficiles à refaire aujourd'hui. Nous avons eu des amis qui se sont beaucoup intéressés à nous, mais très gentiment et avec beaucoup de bienveillance. Je mets en premier le médecin qui a suivi Gilles pendant plus de 10 ans, parce que le temps qu'elle nous a reçu toutes les semaines, ça nous a permis de comprendre comment nous réagissions et comment réagissait Gilles et comment il fallait aussi accepter sa liberté individuelle et son autonomie. Parce que la tendance, c'est d'aller surprotéger, par exemple, avec le logement. Au départ, on avait tendance à mettre notre fils à côté. Moi, je pouvais le trouver des logements facilement. On le logeait à côté, puisque chaque logement était un échec jusqu'à ce qu'il soit stabilisé. On l'avait à côté. Puis un jour, ce médecin nous a dit, mais vous êtes dans la surprotection, c'est pas ça.
Donc vous avez trouvé finalement une juste distance.
Elle nous a dit, vous le mettez à l'opposé de vous dans Toulouse. On a pris ce risque-là. C'est très dur pour les parents d'accepter ce risque parce qu'il nous semble que si on n'est pas là, ça ne va pas marcher. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis allée à l'UNAFAM dès le premier jour de la maladie.
Alors l'UNAFAM, c'est l'Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques.
Exactement. C'est une association nationale avec des délégations départementales. J'y suis restée jusqu'à aujourd'hui avec une petite rupture de quelques années. J'en ai été la déléguée pendant 3 ans et je peux vous dire que les familles qui essayent de faire une démarche vers les autres évoluent peut-être un peu mieux que ceux qui n'y arrivent pas. Peut-être il faut aider les familles à accepter d'aller demander de l'aide en dehors du réseau familial, en dehors du réseau médical qui a tant à faire. Et l'UNAFAM, et il y en a d'autres maintenant, associations hein, qui se sont créées. Donc, et puis, et pour terminer, parce que peut-être je vais en oublier, mais je voudrais citer quand même deux prêtres qui nous ont beaucoup aidés. Parce que notre fils, à un moment donné, a été organiste. Et donc le père Abela
dans une paroisse.
Dans une paroisse, oui. Et le père Abela et le père Roger Blanc, au moment où Gilles a été donc hospitalisé, qu'il pouvait plus jouer, et nous ont énormément soutenus. Je ne vais pas raconter dans les détails, mais nous avons une éternelle reconnaissance à ces deux prêtres. Maintenant, ça fait 30 ans. Donc, ce qui compte en résumé, c'est surtout l'accès aux soins, l'accès aux médicaments et que la famille ne reste pas seule, puisse aller vers d'autres, éventuellement fasse même une psychothérapie, parce que dans le couple, aucun des deux ne réagit de la même façon.
Et justement, dans le couple, quels sont vos rôles respectifs ?
Alors, nous, avec mon mari, on ne s'est pas séparés, on aurait très bien pu le faire parce qu'au départ, chacun accuse l'autre. Contrairement au côté génétique, nous avons cherché qui, dans notre famille, des deux côtés, avait pu présenter une schizophrénie.
Ça peut être destructeur, effectivement.
C'est très destructeur, mais on a trouvé des bizarreries chez certains. Moi, j'avais un grand-père original, mais qui n'était pas schizophrène, certes pas. Mon mari avait un père un peu... qu'à un moment donné avait été hospitalisé en psy, mais il n'était pas schizophrène, il a été enseignant toute sa vie, donc non.
Et était votre rôle particulier, chacun ?
Alors, le rôle particulier, il s'est développé petit à petit, à notre insu, parce que moi, qui suis de nature active, et comme mon métier, c'était assistante sociale, j'ai pris en chose les mains dans la même procédure que mon
travail.
Vous
aviez l'habitude de chercher des solutions.
Oui, c'est ça. Donc, je me suis organisée, c'est-à-dire que j'ai commencé d'abord à écrire tout ce qui se passait pour essayer de repérer dans le temps ce qui évoluait, là où je me trompais, là où ça n'allait pas, et surtout pour comprendre le traitement. Parce que le traitement, pendant des années, il évolue. Il n'y a pas de traitement fixe, il faut l'adapter. Donc, pour aider notre fils à faire son pilulier, à prendre le traitement, il fallait au moins être sûr de ce que c'était. Voilà, par cet exemple-là.
Et votre mari était moins dans l'action, alors ?
Mon mari, qui est une personne beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus calme, c'est le pilier. Et par rapport à notre fils, il y a eu un renversement. C'est très intéressant parce que pendant, on va dire, 20 ans, moi, j'ai été présente, organisée pour le logement, pour les soins, les chirurgies, enfin, tout ce qui s'est passé dans ces 30 ans. Et bien maintenant, notre fils, c'est lui qui, tous les soirs, appelle son père. Et il y a une petite conversation entre eux, je trouve ça savoureux. Et il y a donc un apaisement, on va dire. Et il faut du temps dans la vie hein, pour arriver... à des choses plus calmes, plus posées. Et donc aujourd'hui avec Gérard, nous discutons beaucoup de la maladie de Gilles, d'où on en est arrivé, et surtout maintenant de l'avenir. Parce que vu notre âge, 77 et 78, il faut se préparer à la fin, parce que faut pas arriver. Et donc on essaie sans alarme de préparer notre fils. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi l'autre partie de la famille, de notre fille avec des petits-enfants que nous avons préparés, surtout les petits, maintenant ils sont grands, ils sont majeurs, mais quand ils étaient petits, qui jouaient avec leur oncle, ils rigolaient beaucoup parce que le comportement de leur oncle les faisait rire. Mais à un moment donné, ils se sont interrogés et je les ai réunis. Je leur ai dit, voilà, vous êtes grands, ils avaient 6, 7 ans à peu près. Je leur ai dit, voilà, je vais vous dire quelque chose d'important sur Gilles, qu'il faut que vous sachiez. Et ils m'ont dit, voilà, je leur ai dit la maladie de Gilles. Et vraiment, ils ont une relation très affectueuse avec lui et vice-versa. Alors attention, hein, ce n'est pas une situation idyllique. Il ne faudrait pas croire ça parce qu'il arrive que Gilles fasse des rechutes. Mais il a un suivi par Marchand. Ce suivi est très intéressant parce qu'il a développé un diabète dû à une partie des médicaments, un diabète très sévère. Et l'hôpital, en ce moment, l'aide à la fois sur la schizophrénie et à la fois par le sport adapté sur le diabète. Donc, c'est quelque chose, comme tu as dit, pardon Dominique, toute la vie.
Toute la vie. Dominique Dupois, pour terminer cette émission, puisque... Vous parliez, Madame Jouve, Daniel Jouve, du soutien des prêtres. Quel est le soutien spirituel dont vous avez bénéficié et qu'est-ce qui finalement vous permet de vous appuyer aussi dans cette maladie?
C'est toujours difficile à dire, mais moi j'ai le fait que j'ai ma foi en Dieu, oui, m'a certainement aidé. J'ai été aussi aidé par un père dominicain qui s'appelle le père Grégeois, que j'ai rencontré, qui était notre référent au niveau de l'aumônerie, que j'ai suivi jusque quand j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Puis je l'ai revu ensuite après avoir été malade. Et je pense que le fait d'être croyant me donne une forme d'ancrage, mais c'est difficile, ce n'est pas évident d'y mettre des mots, je pense. Ouais. C'est ça qui est un petit peu peut-être difficile, qui est pas je pense que ça a été une forme de d'ancrage dans ce chamboulement qu'est la maladie psychique.
Merci beaucoup Daniel Jouve, merci Dominique Dubois. Je conseille aux auditeurs de Radio Présence de consulter le site www.ombreetlumiere.fr et sa revue éponyme. Vous pouvez y commander celle qui a servi de support à cette émission. Et puis, afin de soutenir cette revue unique qui doit se moderniser et se digitaliser, je vous propose de vous rendre sur le site och.fr pour participer à la campagne de Credo Funding. Il ne reste plus que 5 000 € à trouver. Allez, c'est bientôt la fin. Merci pour votre soutien. Merci donc à vous deux pour votre présence dans Vivante Église aujourd'hui.
Je vous en prie. Oui.